Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans une dizaine de minutes et comme chaque troisième tumulte de chaque mois, Sylvie Neve nous présentera son poème provisoire. Puis dans une demi-heure, nous diffuserons un entretien avec Jean-Paul Viss, journaliste et enseignant à l'Institut catholique de Lille en histoire contemporaine et en journalisme. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1048. Jean au micro, salut. Tinder Sticks.
Got shot down. Black smoke in my lungs and in my eyes. Black smoke in my feelings. Black smoke that I leave behind. I got shot down. I took myself out. Greedy for it, I was greedy for it. I went out to the river, but the river's drowned. I went out to the river, but the river's choked in black smoke, black smoke.
John Greaves chante Verlaine, c'est Guidille. Et juste après, ce sera le poème provisoire de Sylvie Neve.
Dans un jaune boudoir, comme en 1800. presque nu et non nu à travers une de dentelle montrant ta chair où va courant ma bouche délirante. Je te veux trop rieuse et très impérieuse, méchante et mauvaise.
Bonjour tumulte, bonjour l'automne. Dernier trimestre de l'année, le poème provisoire a rejoint l'enfer de la mer, l'enfer des travailleurs de la mer. Adieu Charles Perrault et Barbe Bleue, c'est Guy de Maupassant que j'expanse cet automne. En mer de Maupassant, en vers de Sylvie Neve, deuxième épisode.
Oh, we've Camina, ramenez les Camina.
Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten.
Rappel de l'épisode précédent. Boulogne-sur-Mer, mauvais temps, gros temps. Un bateau de pêche. Le bateau de pêche, commandé par le patron Javel. Il était un bateau de pêche. Il était un bateau de pêche qui n'avait jamais chaviré. Qui n'avait jamais chaviré. Oui, oui. Quatre hommes, un mousse, Javel et son frère, cadet, à bord, du chalutier. Or, bientôt le vent fraîchit, s'éleva, enfla, à ne pouvoir jeter le chalut. Bateau perdu sous les tignasses des algues, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, trop de nuit à guetter l'œil des fanaux. Enfin, l'ouragan se calma. Il était un bateau de pêche, il était un bateau de pêche, qui n'avait pas encore pêché, qui n'avait pas encore pêché, oui, oui. Enfin l'ouragan se calma comme le bateau se trouvait en pleine mer. Et, bien que la vague fût encore forte, le patron Javel commanda de jeter maintenant le chalut. Jeter le chalut, passer par-dessus bord l'engin, le grand engin de pêche par-dessus bord, filet fixé tout le long, deux câbles glissants, deux rouleaux aux deux bouts, de l'embarcation deux rouleaux, font glisser les deux câbles, relient la grande tige de bois garnie de fer, filet fixé tout le long, passer par-dessus bord, et deux hommes à l'avant et deux hommes à l'arrière, commencèrent à filer sur les rouleaux les amarres qui le tenaient. Tout à coup toucha le fond. Il touche le fond ! À ce moment, une lame très haute brutalement incline le bateau. Le frère cadet se trouvait à l'avant, dirigeait la descente du filet. Brusquement chancela, son bras se troue, va saisi entre la corde, un instant détendu par la secousse, et le bois où elle glissait. Son bras, saisi entre l'instant, la corde amollie dans la secousse, le bois où elle glissait. Bras happé dans l'instant, la corde, le bois. Javel cadet fit un effort désespéré, essayant de l'autre main de soulever la mare, mais le chalut, grand filet racle le fond, chalut traînait déjà, et le câble roidi ne céda pas. Interrogeant Jean l'immensité, ohé, ohé. Ne cédait pas, l'autre main s'acharnait, vainement tentait, tirait, rien n'y fit. L'homme dans la douleur appela. Mais regardant la mer entière, il vit des flots de tous côtés. Il vit des flots de tous côtés. L'homme appelait, crispé par la douleur. Accoururent tous, se jetèrent sur la corde, s'efforçaient de dégager le membre. Dégager le membre que la corde broyait. En vain. Faut couper, dit un matelot. Faut couper, répertèrent les hommes. Vite, tira de sa poche un large couteau, sauverait en deux coups le bras du frère cadet. Sauverait le bras du frère cadet. Couper? Mais couper, c'était perdre le chalut. Valait de l'argent, beaucoup d'argent. De l'argent, 1500 francs, qui appartenait au patron Javel, l'aîné des Javel, tenait à son avoir. Javel, patron de pêche, avait à son bord son frère cadet, 4 hommes, 1 mousse et de l'avoir. Valait de l'argent le chalut. Cria le cœur torturé, « Non, coupe pas, attends, je vais loffer. » Pas coupé, loffé, pas coupé. Courut au gouvernail, mit toute la barre dessous. Le bateau n'obéit qu'à peine, paralysé par le filet qui l'entravait, entraîné par la force de la dérive et du vent. Valait de l'argent le chalut, beaucoup d'argent. Pas coupé, loffé, pas coupé. De l'argent le chalut, pas coupé, loffé, pas coupé. Le frère cadet s'est laissé tomber sur les genoux, dents serrées, yeux hagards, ne disait rien qu'on puisse comprendre. Interrogeons, Jean l'immensité, interrogeons, Jean l'immensité. Son frère revint, craignait encore le couteau d'un marin. Attends, attends, coupe pas, faut mouiller l'encre. Craignait toujours le couteau d'un marin, attendre encore, mouiller l'encre. Pas couper. L'encre fut mouillée, toute la chaîne filée. On se mit à virer, on vira au cabestan pour détendre les amarres du chalut. Pendant qu'ainsi on délibère, douleur gravit, vit le grand hunier, douleur gravit, vit le grand hunier. Ohé, 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 matelot dessine un bras de mer. Ohé, ohé, du bateau, un bras solitaire sur les flots. Viré au cabestan détendit les amarres du chalut. Elles s'amollirent. Enfin, on dégagea le bras. Inerte, sous la manche de laine, ensanglantée. Javel cadet semblait idiot. On lui retira la vareuse. On vit une chose horrible. Bouillie de chair, d'où le sang jaillissait à flot. Foutu. L'homme regardait son bras, murmurait. Foutu. Il ne sait plus les cieux crevant en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants. Il murmure, foutu. Oh, que ma quille éclate! Oh, que j'aille à la mer! Suite dans mer en vert, un troisième mardi proche, peut-être pas celui de novembre. À bientôt, tumulte! Ani černý, potom ani hned tady, ani teď, ani tma, ani den tady, ani tam nemám, ani mám.
Ah. c'était le poème provisoire de Sylvie Neve.
Tady ani tam sama, ani sám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, dávno jsme oba zpět a já dávno tam, sama nevím kam, nevíš sám, ani tma, ani den málo, ani moc, den ani noc, ani já, ani jsem tady, ani tam, sama, ani sám, ani bílá, ani černý, dobrá, ani zlá, ty a ani já.
Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9. Dans quelques minutes, ce sera la diffusion de l'entretien que nous avons eu avec Jean-Paul Viss. Mais pour l'instant, on écoute la star des musiques actuelles de Syrie, Omar Suleiman. Magazine Tumulte, nous recevons Jean-Paul Viss, directeur du journal L'Abeille. Jean-Paul Viss est journaliste et enseignant à l'Institut catholique de Lille en histoire contemporaine et en journalisme et documentation. Nous allons parler avec lui de la Société des Amis de Pentecôte et de son journal L'Abeille, des radios du Nord-Pas-de-Calais, du journalisme et de la presse. Jean-Paul Viss, bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Paul Viss, vous êtes journaliste, vous allez m'interrompre hein, si je fais une erreur dans votre portrait. Vous êtes directeur de L'Abeille, journal de la Société des Amis de Pentecôte. Vous enseignez à l'Institut catholique de Lille, après avoir enseigné à l'Université Lille 3 et à l'ESJ, c'est-à-dire l'École supérieure de journalisme de Lille.
C'est exact.
Et vous avez publié de nombreuses études, consacrées principalement, on peut le dire, à la presse, mais aussi à l'éducation. J'ai vu ça dans votre description de livres parus, et à la Deuxième Guerre mondiale.
Tout à fait, oui.
Alors, Jean-Paul Viss, pour résumer, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un spécialiste de la presse, de son histoire, en particulier régionale? Est-ce que c'est votre passion, la passion intellectuelle de votre vie, la presse?
Disons que d'abord je suis enseignant d'histoire et j'ai été amené par l'histoire et par le métier de journaliste à m'intéresser à l'histoire de la presse. J'ai notamment enseigné l'histoire de la presse à l'École supérieure de journalisme de Lille et à l'époque on s'intéressait surtout à la presse nationale. Bien sûr, dans les cours, je faisais allusion à la presse régionale, je consacrais un cours complet à cette presse régionale, mais on parlait surtout de la presse nationale, qu'elle soit quotidienne ou magazine. Puis je me suis aperçu quand même qu'il était dommage de laisser tomber cette presse régionale, surtout celle de notre région, parce que cette presse avait été foisonnante, elle avait été multiple durant des dizaines d'années.
Alors le mot passion, est-ce qu'il vous convient ?
Oui, le mot passion me convient aussi, c'est tout à fait, parce que la plupart des gens qui travaillent avec moi sont des gens qui sont passionnés par le journalisme, par la presse de cette région.
Alors vous avez touché aussi d'autres aspects de la vie en société, bon, l'éducation, mais aussi la Seconde Guerre mondiale, mais là c'est quand même plus sous l'angle de la presse encore.
L'éducation, non, c'est pas sous l'angle de la presse, même si j'ai examiné effectivement l'opinion face au problème des rapports entre l'État et l'enseignement privé, mais c'était plus globalement les rapports entre l'État et l'enseignement privé qui m'ont intéressé, ce qui a été mon sujet, si vous voulez, de thèse et qui m'a amené par la suite à continuer des études autour de ces rapports.
Alors à l'origine de notre rencontre et de cet entretien radiophonique, il y a un journal, L'Abeille, et vous avez fait un numéro spécial de ce journal qui a été consacré aux radios de la région, hein, petite radioscopie des ondes régionales. Hein, c'est un journal qui est paru donc fin 2009, le numéro 13. On va revenir à ce journal spécial consacré aux ondes régionales. Mais pour commencer, bon, L'Abeille se présente comme le journal de la Société des Amis de Pentecôte. Alors là, grand mystère pour le profane. Qui est ce Pentecôte? Quelle est cette société et ses amis? Et quel est l'objet de ce journal?
Tout à fait. Donc Pentecôte, pour resituer le personnage, Pentecôte a été le premier éditeur d'un périodique dans la région Nord-Pas-de-Calais, qu'on n'appelait pas encore la région Nord-Pas-de-Calais, puisque c'était en 1746. Pentecôte est un libraire lillois, et Pentecôte va justement faire paraître un périodique qui va s'appeler L'Abeille flamande. Ce périodique ne va pas durer très très longtemps, juste quelques semaines, et donc Pentecôte abandonnera. Par contre, son fils Charles, lui, qui prendra sa succession par la suite, relancera un périodique. Il ne connaîtra pas meilleur succès que son père. Et justement, eh bien, le peu de succès qu'il va rencontrer dans la région va l'inciter à partir à Paris. Et c'est à Paris qu'il va connaître le succès, puisque Pentecôte va devenir un éditeur et un libraire très connu. Alors, pourquoi avoir choisi le nom de Société des Amis de Pentecôte? Nous étions un certain nombre qui nous intéressions à l'histoire de la presse dans la région. j'avais constaté, et des gens qui travaillaient avec moi, nous avions tous constaté que la presse était surtout une source pour l'étude de l'histoire de la région, mais qu'elle n'était pas étudiée en elle-même dans cette région, alors que les journaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, y ont été très nombreux. Un exemple, est-ce que vous savez qu'à Arras, à la fin du XIXe siècle, il y a eu jusqu'à 4, voire 5 quotidiens, ce qui paraît maintenant étonnant. Donc, une presse abondante qui méritait qu'on s'y intéresse. J'avais publié quelque temps auparavant une histoire de la presse régionale au temps de l'Écho du Nord. J'avais choisi l'Écho du Nord parce que ce journal commence à paraître en 1819, donc très tôt. Et ce journal est interdit de parution en 1944. On pourra revenir sur les conditions dans lesquelles il était interdit de parution si ça vous intéresse. Et puis, j'avais été contacté par des gens que je connais pour participer à une exposition sur 100 ans de presse roubaisienne. Le directeur de la médiathèque de Roubaix à l'époque venait de réunir les collections des journaux qui avaient pu paraître à Roubaix. Non pas qu'il avait réussi à retrouver tous les journaux, mais il avait fait microfilmer pendant des années les journaux qui avaient pu paraître à Roubaix. Et pour célébrer l'événement, il avait organisé une exposition 100 ans de presse roubaisienne. Nous étions 3 ou 4 à participer au catalogue de cette exposition. Et après cette exposition, nous sommes dit, il faut maintenant qu'on passe à un stade un petit peu supérieur. Il faudrait qu'on puisse fédérer un peu les gens qui s'intéressent à l'histoire de la presse. C'est comme ça qu'est née la Société des Amis de Pankouk. Donc on a choisi Pankouk parce qu'effectivement, c'était le premier libraire, le premier à avoir édité un périodique dans la région. Et quand s'est posé le nom de la revue qu'on pourrait éditer, on a beaucoup réfléchi, on a trouvé des noms savants, puis quelqu'un subitement a dit pourquoi pas l'appeler l'abeille, puisque après tout, l'abeille c'est le symbole des gens industrieux, des gens qui cherchent un petit peu, des travailleurs. Nous on est aussi, si j'ose dire, des laborieux dans la recherche sur l'histoire de la presse, et puis parce que c'était aussi le nom du premier journal édité donc, dans cette région.
Donc l'abeille du Ternois, est-ce que c'est une référence à ce...
Alors je ne sais pas si c'est une référence à ce journal, mais il est vrai que l'abeille du Ternois va prendre ce nom, je crois, en 1841. Avant l'abeille du Ternois, il y a eu d'autres journaux et l'abeille du Ternois se réclame de l'affiliation de ces autres journaux. Mais l'abeille était effectivement un nom qui était assez courant pour un périodique durant cette période notamment de la monarchie de Juillet, où c'est la période où la France se lance dans l'industrie. Et justement, il faut montrer qu'on est très, très laborieux, très industrieux. Et quel meilleur symbole que l'abeille, quoi.
Oui. Alors, ces amis de Pankouk, ce sont essentiellement des universitaires ou
Alors, vous avez... Non. Tout le monde peut être ami de Pankouk. Pankouk peut aussi avoir beaucoup d'amis. Essentiellement, effectivement, je dirais que parmi les membres du bureau, ce sont essentiellement des universitaires, des journalistes ou des bibliothécaires, mais parmi les membres ou les abonnés à la revue, vous trouvez des gens qui sont simplement intéressés à l'histoire de leur région, puisque à travers les journaux, c'est aussi l'histoire de cette région qu'on peut lire.
D'accord. Alors le journal L'Abeille, est-ce qu'il a une périodicité par exemple ?
Alors il a une périodicité, il paraît trois fois par an. Nous sortons un numéro en avril, un second numéro fin septembre et le dernier numéro de l'année paraît en décembre.
D'accord. Est-ce que vous avez une volonté de faire en sorte que chaque numéro soit en fait un numéro spécial avec un thème central ou est-ce que c'est une compilation entre guillemets de différentes études que vous avez pu produire ?
Alors, ça, c'est un débat qu'on a effectivement au sein de l'association. Est-ce que la revue doit être thématique ou est-ce que on doit faire paraître les études au fur et à mesure qu'un certain nombre de membres de l'association les ont terminées ? Pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision ferme. On a fait plusieurs numéros thématiques. C'est vrai que ces numéros thématiques, on a pu le constater, suscitent en général beaucoup beaucoup de réactions. On a fait un numéro spécial sur la conservation de la presse, on a fait un numéro spécial sur la radio, on a fait un numéro spécial sur les localiers, et à chaque fois, c'est ce qui nous a valu le plus réactions. Il y a d'autres numéros thématiques qui sont prévus. Dans la foulée des localiers, on fera les colporteurs et les crieurs de journaux. On fera par la suite les métiers de l'imprimerie dans les journaux. Et est prévu, c'est déjà en cours de réalisation, est prévu un numéro sur la télé régionale.
Alors justement, quand on pense histoire de la presse, on a spontanément tendance à penser histoire de la presse écrite. Et est-ce que vous avez le souci justement de ne pas vous cantonner à... Alors c'est vrai que la presse écrite, c'est quand même la presse la plus historique, enfin celle qui a été la plus présente, évidemment par il y a le problème de l'innovation technique, technologique quoi. Mais bon, est-ce que vous généralisez à l'histoire des médias en fait?
Tout à fait. Dans les statuts, il est prévu que c'est l'étude de tous les médias, hein, pas simplement la presse écrite. Bon, il est évident, et vous venez de le souligner, par son ancienneté, par sa diversité, la presse écrite y occupe une grande importance, et que bon, beaucoup d'articles, beaucoup de travaux qui ont été faits portent sur cette presse écrite. Cependant, le numéro spécial donc sur la radio, le numéro que l'on prépare sur la télé régionale, prouve notre volonté de nous intéresser à tous les médias. Et puis j'ajouterais que parallèlement à cette étude donc, de l'histoire de la presse, le périodique que nous éditons comporte une rubrique qui s'appelle « Vie des médias ». Et la vie des médias, c'est la vie des médias d'aujourd'hui. Donc à travers cette vie des médias d'aujourd'hui, bien sûr, nous évoquons à la fois la radio, nous évoquons la télévision, mais nous évoquons aussi les sites internet qui peuvent se créer dans cette région et qui font de l'information.
D'accord. Alors on revient à ce numéro 13 paru fin 2009 de l'Abeille, donc consacré aux ondes régionales, petite radioscopie des ondes régionales. Je me souviens plus l'intitulé. De G comme Galène à...
De G comme Galène à N comme numérique.
Numérique, voilà. Donc petite radioscopie des ondes régionales. Les ondes régionales, nous, bon, quand je dis nous, c'est les gens qui ont l'expérience des radios associatives. Notre histoire, on la situe souvent à fin des années 60 avec l'apparition de Radio Campus. Et en fait, en lisant votre revue, on s'aperçoit que les ondes régionales, c'est bien plus ancien. 1927, Radio PTT Nord, c'est ça ?
Tout à fait. La première radio qui a diffusé dans la région s'appelait Radio PTT Nord. Elle s'appelait Radio PTT Nord parce que justement, elle était installée dans les locaux de la Grand Poste à Lille, sur la place de la République, et elle était animée par un technicien donc des PTT à l'époque.
Alors, une radio qui avait la dimension régionale, ou c'était une radio lilloise ?
Au départ, elle avait une dimension quand même très très restreinte, parce qu'il y a très peu de gens qui ont certainement entendu les premières émissions. La première émission a été consacrée à l'inauguration de la foire de Lille par le président de la République. Et je crois que donc dans la journée, il y a eu trois émissions qui ont été consacrées à cette inauguration. La première, c'était l'inauguration en elle-même. La deuxième, ça a été son passage, je crois, à l'hôtel de ville, ou vice-versa, je ne me souviens plus de l'ordre. Et la dernière émission, c'était le soir où il y avait un grand concert qui était organisé. À l'époque, il y a effectivement très peu de gens qui l'ont entendu. Mais peu à peu, effectivement, parce qu'elle va avoir des émetteurs qui vont être aussi de plus en plus puissants, cette radio va avoir une véritable dimension régionale. Et elle va être très écouté. Comme aujourd'hui, on dit, les gens du Nord, effectivement, sont des gens qui regardent beaucoup la télévision. Dans l'entre-deux-guerres, les gens du Nord étaient des gens qui écoutaient beaucoup la radio. C'était l'ouverture sur le monde, c'était l'ouverture sur un certain nombre de loisirs. La radio, au départ, fait peu d'informations, hein, parce que d'abord, les patrons de presse écrites s'opposent à ce que cette radio fasse de l'information.
Alors, justement, mais les gens, ils avaient déjà... il y avait déjà un parc entre guillemets de postes de radio familiaux importants.
Lorsqu'on est à la veille de la première guerre mondiale, de la seconde guerre mondiale, excusez-moi, le parc de postes est effectivement très important. Au départ, il est très très limité, mais au fur et à mesure des années, ce poste va s'agrandir. Pourquoi ? Bien parce que à la fois, si vous avez les patrons de presse écrite qui s'opposent à de l'information sur les antennes, les journaux régionaux font d'abord beaucoup de publicité pour les marchands de postes, les marchands de postes de TSF, comme on disait à l'époque, eh bien, passent énormément de publicité dans les journaux. Et puis, les journaux s'intéressent tout de suite au programme des radios, que ce soit Radio PTT Nord ou que ce soit d'autres radios, des radios nationales.
Hein. Oui. Après Radio PTT, alors je ne sais pas quand se termine l'histoire de Radio PTT Nord.
L'histoire de Radio PTT Nord, je dirais qu'elle se continue, puisque on pourrait presque dire que Radio Bleu est la petite fille ou l'arrière-petite fille de Radio PTT Nord, puisque ces radios vont être ensuite des radios d'État. Hein, France Bleu Nord étant une radio qui dépend de Radio France, pourrait se revendiquer comme
l'héritière.
L'arrière-petite fille.
Est-ce qu'on voit apparaître plusieurs radios avant la Deuxième Guerre mondiale?
Dans cette région, non. Dans d'autres régions, notamment, je crois, dans la région de Toulouse, si je me souviens bien, on voit apparaître effectivement des radios qui sont des radios privées à l'époque, qui sont créées par des gens qui ont des intérêts, je dirais, capitalistiques. Mais dans cette région, non. Radio PTT Nord va rester en situation de monopole jusque pratiquement les années 60.
Hein. Oui. Où apparaît le monopole d'État sur la radiodiffusion ou
Le monopole d'État, il est décidé après la Seconde Guerre mondiale.
D'accord.
On considère que effectivement la radio doit être un monopole de l'État. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne tolère pas d'autres radios en France. Un monopole d'État, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'émettre à partir du territoire français. Si l'on prend les radios, genre Radio Luxembourg, plus tard Europe 1, on les appelle les radios périphériques. Pourquoi les appelle-t-on les radios périphériques ? Parce que leur émetteur est justement à la frontière de la France. Radio Luxembourg, l'émetteur est au Luxembourg. Europe 1, l'émetteur est en Sarre, en Allemagne.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a la période de la Seconde Guerre mondiale, la période de la résistance, est-ce que c'est une parenthèse, un blanc au niveau des ondes dans la région? Il y a évidemment Radio Londres,
la voix
de la résistance, mais est-ce qu'on peut parler de radio? Est-ce qu'il y a eu par exemple des tentatives de radio pirate, mais de résistance quoi?
À ma connaissance, non. Et je pense à la connaissance de beaucoup d'historiens sur la région, il n'y a pas eu de tentative de radio pirate pendant cette époque. Radio PTT Nord va se taire pendant quelques mois parce qu'elle a eu son émetteur qui est détruit. Puis ensuite, les Allemands vont l'empêcher d'émettre. Et puis, on va s'apercevoir que ça pourrait rendre service quand même à l'occupant. Donc, on va redonner des programmes à partir, je crois, du retour de Laval. Donc, ça doit être à partir de 1942 que le Radio PTT Nord reprend. Mais il n'y a pas de tentative. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la radio a pu servir pour alimenter des journaux clandestins. Déjà, pendant la Première Guerre mondiale, vous avez des journaux clandestins qui sont créés à partir de l'écoute des radios. Que ces radios soient des radios françaises, que ce soit Radio Tour Eiffel à Paris, ou que ce soit une radio anglaise. Vous avez un curé de Roubaix et un industriel de Roubaix et un professeur de la faculté de pharmacie de Lille qui s'appelle Willow, qui vont effectivement écouter des radios à Paris, des radios en Angleterre, et vont faire paraître des journaux pour soutenir le moral des Français. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu de tentative. À ma connaissance, il n'y a pas de tentative de radio clandestine comme il y a eu des journaux clandestins. Mais dès la Première Guerre mondiale, la radio va servir justement pour alimenter un certain nombre de journaux clandestins qui soutiennent le moral des occupés.
Alors après la période de la résistance de la Seconde Guerre mondiale, on voit la presse écrite se recomposer autour des journaux, souvent nés de la résistance, justement. Est-ce qu'on a un phénomène de création de radio avec justement les gens issus de cette période ?
Non, ce sont des
c'est le monopole d'État.
C'est un monopole d'État qui
bloque ça.
Dans la région, c'est un monopole d'État. C'est évident. Vous allez avoir sur l'ensemble du territoire national les radios qui se recomposent sont des radios commerciales. Radio Luxembourg est une radio commerciale. Europe 1 sera une radio commerciale.
D'accord. Alors bon, après, il y a le grand boom des radios libres fin des années 60, années 70, et puis surtout à partir de 81. C'est une période qu'on connaît plus sur les antennes de radio PFM. Est-ce que vous avez une approche spécifique de ce phénomène-là ? Est-ce que...
J'ai pas d'approche spécifique de ce phénomène-là. J'ai quelques souvenirs des premières radios, maintenant personnelles aussi, parce que j'étais étudiant et que effectivement à l'époque, si on voulait être dans le vent, comme on disait à l'époque, c'était d'écouter Radio Campus qui émettait à partir justement du campus de Villeneuve-d'Ascq. Et c'était dès que Radio Campus avait des ennuis, c'était d'aller se mobiliser effectivement pour protester contre la police qui empêchait la libre parole, notamment des étudiants, si vous voulez. Alors, l'approche que je peux avoir, après, c'est cette multitude, c'est, j'ai des souvenirs aussi de toujours des tentatives qui étaient faites pour empêcher ces radios de s'exprimer. Je me souviens de plusieurs occupations de la police, de la Maison de la Nature et de l'Environnement. Je ne sais pas si elle s'appelait à l'époque déjà la Maison de la Nature et de l'Environnement, rue Gosselet, à Lille, où il y avait une radio, effectivement, qui émettait. J'ai tout un certain nombre de souvenirs comme ça, souvenirs qui sont des souvenirs d'étudiants, puis ensuite des souvenirs journalistiques. J'ai aussi, comme idée, c'est le foisonnement de toutes ces radios qui faisaient parfois penser à une espèce de charivari parce qu'on était sur les ondes et puis on arrivait difficilement à capter la radio qu'on aurait voulu entendre. Il suffisait que, on bouge un petit peu la radio et puis on avait perdu tout de suite la station qu'on voulait écouter. C'est ce genre de souvenir que je peux avoir, si vous voulez.
D'accord. Alors, sur... Vous avez réalisé ce numéro spécial consacré aux radios, mais comment est-ce que vous avez travaillé ? Ou même d'une manière générale, comment vous travaillez pour réaliser un numéro de l'abeille ?
Alors
c'est de l'enquête
numéro,
de terrain, c'est des archives, c'est comment ça se passe ?
Alors c'est à la fois, on essaie de mêler, notamment quand on fait des numéros spéciaux comme ça, on essaie toujours de mêler le travail en archives et le travail sur le terrain. D'abord, notre vocation, c'est l'étude de l'histoire, de la presse. Donc il y a un gros travail d'archives et l'histoire, je dirais, le fil continue des années 1927 jusqu'à nos jours, a été faite à partir d'archives, à partir aussi, bien sûr, de quelques témoignages de gens qui ont été des pionniers dans les radios libres. Et puis, donc ça, c'est le papier historique. Et puis ensuite, on travaille à partir de déplacements sur le terrain ou de témoignages directs. Vous avez ainsi pour, je dirais, les débuts de la radio juste avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, vous avez un long papier, par exemple, de Fernand Vincent. Fernand Vincent qui a été une personnalité qui a compté dans cette région aussi bien au niveau de la radio qu'au niveau de la télévision. Et Fernand Vincent a été un réalisateur connu, je dis été parce que Fernand Vincent vient de mourir il y a très peu de temps, mais était un réalisateur très connu. Il a notamment réalisé le fameux magazine du Mineur sur les antennes de la télé régionale. Donc ça dit encore quelque chose à beaucoup de gens. Donc Fernand Vincent nous a fourni son témoignage à la fois, je dirais, comme professionnel, mais il y a un deuxième témoignage qui est intéressant, c'est ses débuts à la radio. Petit garçon, il assistait aux matinées récréatives qui étaient organisées par Radio PT Ténor, animées par le directeur de cette radio qui, pour les enfants, s'appelait Papa Léon. Donc il nous raconte les coulisses de cette radio alors qu'il était encore en culotte courte. Et puis ensuite, dans un deuxième papier, il nous raconte effectivement les débuts de la radio après la guerre, alors qu'il était là professionnel. Embauché par hasard, et puis il va faire toute sa carrière à la radio, puis à la télévision. Ça, c'est le premier témoignage. Ensuite, eh bien, on a demandé à un certain nombre de personnes qui font partie de l'association, intéressées par le problème des radios, eh bien, de nous faire vivre soit une période, soit le quotidien d'une radio aujourd'hui. Et sur Arras, bon, on a donc une historienne qui fait partie de notre association, Marie-Christine Allard, qui avait fait un papier à l'école sur PFM.
Oui, qui a d'ailleurs été une des animatrices de Radio PFM.
Ça, je le sais pas.
Pas mal d'années. Alors, par exemple, la réalisation d'un numéro comme de l'abeille comme celui-là, c'est combien de personnes qui travaillent ?
Honnêtement, l'abeille est réalisée toujours par un noyau dur, je dirais d'une dizaine de personnes.
Ce qui est déjà pas mal.
Toujours, malheureusement, on a beaucoup de difficultés à impliquer les autres membres de l'association dans l'écriture, dans la recherche d'informations. Parce que, je peux le comprendre, ça demande du temps, ça demande une certaine pratique. Et on a beaucoup de membres qui sont prêts à nous aider à la rigueur pour des petites tâches matérielles. Mais lorsqu'il s'agit d'écrire ou lorsqu'il s'agit de chercher l'information, c'est un peu plus difficile.
Radio PFM 99.9, libre et sans pub, magazine Tumult. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Wyss, qui est journaliste et enseignant à l'Institut catholique de Lille, enseignant en histoire contemporaine et en journalisme et documentation. Alors Jean-Paul Wyss, on va aborder maintenant un autre point qu'on a déjà touché de fait incidemment dans l'entretien précédent, mais qui est plus spécifiquement la presse écrite. Alors est-ce qu'on peut dire que son histoire régionale est particulièrement riche et diversifiée ? Parce que quand on regarde aujourd'hui l'état de la presse régionale écrite, on a l'impression qu'elle est extrêmement uniforme, concentrée. On ne pense évidemment qu'à la Voix du Nord, quoi.
Tout à fait. Bon, si on regarde la situation aujourd'hui, il nous reste sur la région trois quotidiens. La Voix du Nord, Nord-Éclair et Nord-Littoral, qui, lui, diffusent simplement sur la région de Calais. Quand on regarde à qui appartiennent ces trois journaux, on s'aperçoit que ces trois journaux appartiennent au même groupe. Donc cette région, je dirais, elle est emblématique de la concentration qui s'est produite dans la presse pratiquement depuis l'après-guerre. Or, si on repart, on ne va pas repartir au tout début de la presse en 1746, mais prenons la presse au 19e siècle, on a affaire dans cette région à une presse qui est diverse, variée. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire dans cette région à une série de petites villes avec leur société savante, avec leur centre administratif, avec leur régiment. Et dans toutes ces petites villes, vous avez pratiquement des périodiques pour chaque sensibilité politique. Par la suite, vous allez avoir la création de villes nouvelles. Je pense notamment au bassin minier, où des petits villages vont devenir subitement des agglomérations importantes. Et les partis ouvriers, notamment les syndicats, vont créer eux aussi leur périodique qui vont s'adresser justement à ces travailleurs qui vont essayer de défendre leurs intérêts. Ce qui fait que, dans cette région, on a une multiplicité de périodiques. Alors, quand je dis périodiques, il ne s'agit pas simplement des périodiques dites d'information politique ou générale, mais périodiques qui peuvent être des périodiques sportifs, qui peuvent être des périodiques culturels.
Oui. Alors quand on parle de presse écrite à l'époque, au départ, vous me le disiez en antenne, ce sont des journaux qui ne sont vendus que par abonnement.
Tout à fait. Au départ, les journaux sont vendus par abonnement et le prix du journal est très cher, ce qui fait que ce journal est peu accessible aux classes les plus modestes. Ce sont les bourgeois qui lisent le journal. Je ne veux pas dire que le journal n'arrive pas aux ouvriers, aux plus humbles. En général, ce journal arrive dans des cafés. Et il y a des lectures publiques où les ouvriers, les paysans peuvent se réunir et assistent à cette lecture publique. Il y a notamment un préfet de Montreuil, à l'époque Montreuil-sur-Mer, qui disait, c'était sous la monarchie de Juillet, donc entre les années 1830 et 1848, qui disait les journaux sont usés de lecture. Ce qui voulait dire qu'effectivement, ces journaux qui étaient comme ça mis à la disposition du public par les cabaretiers, était très regardé, très lu.
Il passait de main en main.
Ça passait de main en main. Et pour ceux qui ne savaient pas lire, effectivement, on faisait de la lecture publique.
Alors, est-ce qu'il y a un phénomène de développement, par exemple, de presse très spécifique, presse sportive, par exemple, ou presse culturelle, ou est-ce que tout est rassemblé sous la dénomination du journal, quoi ?
Non. Vous avez d'une part une presse politique et puis vous avez d'autre part une presse qui, elle, peut rassembler la culture, les sports et autres. Au départ, encore une fois, on a affaire soit à des journaux d'annonces ou à des journaux dits littéraires. Il y a très peu de journaux politiques. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'intérêt du pouvoir politique, qui est quand même un pouvoir relativement fort, de voir des journaux d'opposition se développer. Il faut obtenir une autorisation pour pouvoir publier un journal. On ne peut pas publier un journal politique comme ça. Pour pouvoir publier un journal politique, il faut déposer ce qu'on appelle un cautionnement, c'est-à-dire une forte somme d'argent qui risque de vous être enlevée si jamais vous avez un procès. Et puis, on paie une taxe sur chaque feuille imprimée. Donc, que ça limite l'envie d'un certain nombre de personnes de vouloir publier un journal. Notamment, si on se projette un peu plus loin, les partis de gauche, les partis, au départ les partis plutôt socialistes, ont eu parce que c'était des petits partis, ont eu des difficultés à créer des journaux parce qu'il fallait déposer justement un cautionnement. Et tout ça pratiquement jusqu'à la loi de 1881, qui, je vous le rappelle, va être la loi sur la liberté de la presse en France. La loi qui va être pratiquement la plus libérale à l'époque. Donc, on a affaire à des journaux, surtout des journaux d'annonces ou des journaux littéraires. Pourquoi ? Parce que ces journaux-là ne sont pas soumis au cautionnement. Vous pouvez, si vous ne parlez pas de politique, si vous ne parlez pas d'économie, vous pouvez publier tous les journaux que vous voulez. Puis, vous avez les journaux politiques, et là, effectivement, ce sont des gens qui ont un peu de moyens qui vont faire paraître ces journaux. Si je prends, par exemple, ici à Arras, les premiers journaux politiques, Le Propagateur, Le Progrès, Frédéric de Georges, qui en est le rédacteur en chef, a derrière lui un certain nombre de gens qui sont des bourgeois, qui ont des biens et qui peuvent le financer.
Alors justement, puisque vous en parlez, vous parlez de la presse arrageoise, vous avez créé un livre, La presse arrageoise de 1788 à 1940. Pourquoi vous êtes intéressé à la presse de la région d'Arras ?
Alors ce travail rentre dans un cadre beaucoup plus général. La DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, avait lancé un plan de sauvegarde du patrimoine écrit. Alors le patrimoine écrit, c'était aussi bien le livre que la presse. Et donc dans ce plan de sauvegarde, il y avait le volet presse. Et la DRAC m'avait demandé à l'époque de voir l'état des journaux dans la région. Alors il n'était pas question de pouvoir faire toute la région comme ça d'une seule fois. Donc on a divisé la région tout simplement selon la division administrative. Et on s'est arrêté, on s'est dit, pour débuter, il faut absolument qu'on prenne le Pas-de-Calais. La DRAC tenait à ce que ce soit le Pas-de-Calais parce qu'effectivement, vous savez, que quand ça vient de Lille, les gens disent toujours c'est du Nord, et puis vous pensez au Pas-de-Calais après. Donc la DRAC avait le souci de commencer par le Pas-de-Calais, m'a laissé le choix de la préfecture, la sous-préfecture que je choisirais. J'ai choisi Arras parce que Arras me semblait la plus intéressante. C'était une ville-préfecture qui avait eu donc un préfet, qui avait un évêché, qui avait une inspection académique, etc. etc. et beaucoup de sociétés savantes, une académie notamment. Donc ça me semblait intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Arras. Et bon, je crois que je ne l'ai pas regretté, puisque dans cet ouvrage, il y a quelques 500 notices donc, sur les journaux qui ont pu paraître à Arras durant cette période. 1788, parce que c'est le premier journal qui va paraître, et 1940, parce qu'à partir de là, on peut considérer que va naître après une nouvelle presse.
Est-ce qu'il y a une spécificité arrageoise, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une grande diversité, ou est-ce qu'il y a des publications vraiment marquantes?
Alors, on peut dire que la presse d'Arras, au moins jusque le Second Empire, a été une presse importante, a été une presse pratiquement à l'avant-garde. Vous avez, j'ai déjà cité, quelqu'un comme Frédéric de Georges. Frédéric de Georges est effectivement quelqu'un qui est intéressé partout. C'est un républicain modéré, dirais-je, à l'époque. Mais c'est quelqu'un qui a des relations à Paris. C'est quelqu'un qui a des relations à l'étranger. C'est quelqu'un qui va correspondre et qui va rencontrer Louis-Napoléon Bonaparte alors que celui-ci est prisonnier au fort de Ham dans la Somme. Et c'est dans son journal que va paraître en article l'extinction du paupérisme qui va être ensuite publiée sous une forme de brochure. Donc on a une presse qui est fort intéressante à Arras jusqu'au Second Empire. Alors, cette presse, elle va évoluer, si j'ose dire, avec la place que Arras va avoir dans cette région. C'est-à-dire qu'il y a une ville qui, peu à peu, va émerger dans cette région, c'est la ville de Lille. Et c'est vrai que, peu à peu, les grands journaux lillois vont venir phagocyter, si j'ose dire, la presse arrageoise.
Alors revenons à la situation actuelle. Bon, on l'a dit, le phénomène, vous l'avez dit, le phénomène de concentration extrêmement important. Est-ce que la situation plus actuel, là encore, c'est la révolution technologique avec l'apparition du numérique et de l'Internet qui remet en cause, ou pas, là c'est tout un débat, la question de la presse écrite et de sa diffusion.
Je suis persuadé que les patrons de presse écrite ont misé sur le numérique justement pour essayer de sauver l'écrit. Si on se réfère à certains d'entre eux et un patron d'un plus important groupe de presse écrite en France, Monsieur Lagardère annonçait déjà il y a 10 ans la mort de la presse écrite, hein, et se reportait déjà partiellement sur le numérique. Je suis persuadé effectivement que les journaux, hélas, ont de moins en moins d'avenir, même si je reste, moi, un chaud partisan de la presse écrite. Je ne me vois pas le soir lire les nouvelles sur un écran, mais je me vois toujours touchant un journal, parce que, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, avec le journal, il y a un contact physique. C'est une expression qui les amuse, mais un journal, c'est un peu comme une femme. Un journal, ça se touche. Un journal, ça se regarde, et un journal, ça se sent. Il y a un contact physique qu'on ne pourra pas avoir avec l'écran. Mais il est vrai que quand on regarde le lectorat de cette presse écrite, c'est un lectorat qui est vieillissant, et ce n'est pas nouveau. Mais je crois que ça s'accélère de plus en plus. Avec Internet, la plupart des jeunes vont chercher l'information sur Internet, et non pas, même pas dans la presse gratuite. Cette presse gratuite, lorsqu'ils la regardent, c'est pour faire le sudoku ou pour faire les mots fléchés.
Ou passer un petit peu de temps dans les transports en commun, peut-être.
Tout à fait. Je passe un peu de temps dans les transports en commun et même si ça ferait rire mon épouse, de temps en temps dans les supermarchés pour écouter les gens. Parce que je pense que comme journaliste, on a de moins en moins l'occasion d'écouter les gens, et que pour comprendre la vraie vie, il faut de temps en temps se mêler effectivement aux endroits où il y a beaucoup de foule. Et les transports en commun, où c'est un moment un petit peu de repos malgré tout, le supermarché, où c'est un moment où on est détaché d'autre chose, on apprend un petit peu quels sont les vrais problèmes des gens.
Alors le journal, entre guillemets, sur Internet, le journal écrit, c'est pas simplement une question de support qui diffère, ça induit une lecture qui est différente, non ?
Ça induit une lecture différente, ça induit une écriture aussi complètement différente. Hein. Vous n'écrirez pas sur Internet comme vous écrivez actuellement pour un support papier. Hein. Donc ça suppose effectivement une nouvelle formation pour les journalistes. Et je crois que pas mal d'écoles de journalisme l'ont pris en considération, et qu'à côté, bien sûr, la presse écrite, ça reste, je dirais, le béaba du métier de journaliste. Mais comme après, il y avait spécialisation radio-télévision, il y a spécialisation webmaster maintenant.
On va parler du journalisme dans un instant. Thank you. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Wyss, enseignant à l'Institut catholique de Lille en histoire contemporaine et en journalisme et documentation. Il est aussi journaliste. On va parler justement avec lui maintenant de cette question du journalisme. Est-ce que c'est un métier journaliste ? Est-ce qu'il a une histoire lui aussi ?
Oh, bien sûr, le journalisme a une histoire. D'ailleurs, il y a un universitaire qui a consacré un livre à l'histoire des journalistes. C'est Christian Delporte, il y a quelques années. Au départ, ce n'est pas un métier. Les gens qui sont journalistes sont soit des imprimeurs qui se contentent de publier des journaux d'annonces, donc se contentent de publier ce qu'on appellerait maintenant des communiqués que peuvent leur transmettre un certain nombre de leurs informateurs, ou alors ce sont ce qu'on appelle des hommes de lettres, c'est-à-dire des gens qui, dans leurs publications littéraires, vont publier leur production, la production de leurs amis. Et puis, pour les journaux politiques, ce sont en général des gens qui sont les leaders des sensibilités politiques qui sont représentées dans la cité, que ce soit des monarchistes, que ce soit des républicains ou des socialistes par la suite. Le journalisme va devenir vraiment une profession, je dirais, sous le Second Empire. Prendre un exemple, si je prends l'exemple de l'Écho du Nord, qui est, sous le Second Empire, le principal journal dans la région, vous aviez trois personnes, dont le propriétaire, qui sont journalistes, c'est-à-dire qui passent leur temps à collecter de l'information. Et il faut savoir qu'à l'époque, on fait aussi la différence entre le rédacteur et le reporter. Le rédacteur, c'est celui qui reste à son bureau, qui rédige, alors que le reporter, c'est celui qui va chercher les nouvelles et qui va les ramener pour le rédacteur. Le métier va surtout, bien sûr, se développer avec la démocratisation de la presse. Cette presse, elle se démocratise à partir des années 1875 et puis surtout, bien sûr, avec la loi sur la liberté de la presse en 1881. Elle se démocratise parce que le journal devient moins cher, parce que les gens apprennent à lire. À la fin de l'Empire, il y a quand même plus de 70% des Français qui savent lire. Jules Ferry instaure l'école publique laïque et obligatoire. Je dirais que c'est comme souvent, la loi, elle entérine déjà une situation qui existe pratiquement de fait. Donc il y a des 70% des hommes au moins qui savent lire. Les gens participent à la vie politique, puisque maintenant il y a plusieurs partis et on est au suffrage universel. Donc le journal intéresse de plus en plus et c'est là qu'il va falloir de plus en plus de professionnels pour donner cette information. Les journalistes, à un certain moment, professionnels cette fois-ci, vont d'ailleurs lutter contre ce qu'ils appellent les amateurs. Les amateurs, c'est à la fois effectivement ce qu'on pourrait appeler peut-être les correspondants qui envoient de temps en temps un papier comme ça, mais aussi les hommes politiques, parce qu'on considère maintenant, on considère notamment dans l'entre-deux-guerres, que le journalisme doit être fait par des gens qui n'exerce que cette fonction. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est qu'il y a encore très peu d'écoles qui forment à ce métier de journaliste. La plus ancienne école de journalisme actuellement, c'est celle de Lille et elle date des années 20, de 1925, si je me souviens bien.
Et est-ce qu'il existe à cette occasion-là la création d'un... Est-ce qu'il se crée un statut du journaliste ?
Il n'y a pas de statut du journaliste à l'époque. D'ailleurs, c'est une profession qui, après la guerre, est une profession qui est mal payée et qui n'est pas très bien considérée. Elle n'a jamais été très bien considérée, notamment par la police. Il faut voir les rapports de police sur les journalistes, notamment sur les reporters, ceux qui vont donc chercher l'information. On trouve souvent qu'ils ont une vie dissidente, qu'ils mènent aussi une vie qui est plutôt misérable, parce que ce sont des gens qui sont assez mal payés. Après la Première Guerre, ces gens sont encore très, 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 très mal payés. Il va falloir attendre plusieurs années pour que les journalistes gagnent vraiment leur vie, parce que les patrons de presse préfèrent privilégier à l'époque les gens du livre qui, eux, ont une profession qui demande une certaine technicité. On a toujours eu l'impression qu'effectivement, un journaliste, eh bien, il suffisait de prendre quelqu'un dans la rue et puis de lui dire « tu vas écrire maintenant ». Or, ce n'est pas tout à fait ça. Pour avoir un statut, il va falloir attendre pratiquement la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est avec la création notamment du Syndicat national des journalistes après la Première Guerre mondiale qu'on va peu à peu créer ce statut des journalistes. La carte professionnelle, elle ne date que des années 1930. Hein.
Alors vous enseignez le journalisme, est-ce que vous donnez une définition de ce métier, une définition idéale ou ce que doit être un journaliste, quel le travail qu'il doit faire qu'il devrait faire?
La première chose que je dis à mes étudiants, c'est que vous êtes là pour rapporter et pour expliquer les faits aux gens. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est relativement complexe. Tout est complexe, même le moindre fait divers peut être complexe. Donc, eh bien, vous êtes des intermédiaires entre des gens qui possèdent l'information et des gens qui veulent savoir. Donc, il vous faut clarifier, expliquer et dans un langage que tout le monde peut comprendre. C'est ça, le journaliste est vraiment le médiateur entre des gens de plus en plus de gens qui vont posséder une certaine information, qui vont donner cette information dans un langage qui leur est particulier et qui n'ont peut-être pas intérêt à donner toute cette information, et un public qui lui attend justement qu'on lui donne cette information d'une façon claire, d'une façon agréable aussi.
Alors, est-ce que ce n'est pas une fonction qui a tendance à disparaître avec Internet, où tout le monde peut donner une information, la lire? Et est-ce qu'elle n'a pas aussi la tendance à disparaître avec la formation, ce qu'on pourrait appeler l'information spectacle, où c'est plus un journalisme qui parle, par exemple, à la télévision, c'est un présentateur? Est-ce qu'on n'a pas ce phénomène-là?
Alors c'est sûr que de plus en plus de gens maintenant se prennent pour des journalistes. Hein. Il suffit d'avoir vu quelque chose dans la rue, on fait une photo et puis on se dit ben, je fais le travail d'un journaliste. Il suffit d'avoir entendu une rumeur et puis on le met sur Internet et on se dit journaliste. Sauf que le journalisme, ça demande certaines précautions, ça demande d'enrichir l'information, ça demande de la contrôler, ce que malheureusement un certain nombre de personnes qui se disent journalistes ne font pas. L'information, c'est quelque chose de très dangereux. Ça veut dire qu'on ne peut pas lancer comme ça une nouvelle. Il faut à chaque fois pouvoir la recouper, avoir pris le temps de vérifier cette information. Ce qui est d'ailleurs aussi de moins en moins vrai pour les journaux, pour les radios, parce qu'il y a une course effectivement à l'information, notamment, hein, bien sûr, à cause du net actuellement. Hein, c'est évident. Alors, l'information spectacle, c'est vrai, mais sachez que, même si ce n'était pas encore de l'information spectacle, lorsque l'on donnait les premières informations à la radio, ce n'était pas un journaliste qui donnait l'information, mais c'était un présentateur, parce que ce présentateur, eh bien, par un speaker, parce que cette personne, effectivement, avait une intonation de voix agréable, parce que cette personne parlait bien. Hein. Donc, les informations soient présentées par un présentateur, ça ne me gêne pas trop. C'est effectivement lorsqu'il y a une dérive vers le spectaculaire. L'information, ce n'est pas simplement de l'émotionnel. Or, actuellement, on est beaucoup plus dans l'émotionnel que dans l'informatif. C'est l'image qui a voulu ça. Et puis, c'est peut-être la rapidité, la mobilisation aussi d'un maximum de personnes qui fait qu'on tombe rapidement dans l'émotionnel. Et ça, il faut s'en méfier beaucoup.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un apport spécifique du journalisme associatif, par exemple des radios associatives? Est-ce qu'elles ont apporté quelque chose au métier?
Je crois que tout apport de façon d'un nouveau média, que ce média soit un nouveau périodique, que ce média soit toute une série de radios, ne peut qu'enrichir le journalisme. Il n'y a rien de pire qu'un journal qui va se retrouver en situation de monopole. Il n'y a rien de pire pour le lecteur, mais il n'y a rien de pire pour un journaliste. Parce que ça veut dire quoi ? Si vous êtes en situation de monopole, eh bien, votre rédacteur en chef ou votre supérieur hiérarchique va vous dire « Bon, ça, on n'a peut-être pas besoin de le traiter puisqu'on est les seuls, c'est pas nécessaire. » Tandis que si vous avez effectivement une certaine rivalité, vous allez être obligé d'être ouvert sur toutes les sensibilités. Et c'est ça qui est important. Donc, je pense que effectivement, les radios ont pu apporter certainement quelque chose de nouveau. Ce qu'ils ont pu apporter de nouveau, c'est peut-être le ton un peu libre. Ils ont donné aussi peut-être un peu plus de liberté. Eux, en partant à la conquête de cette liberté de parole, ils ont peut-être pu donner un peu plus de liberté aux journalistes de presse écrite, dans la mesure où ils ont peut-être abordé des sujets que la presse écrite n'abordait pas toujours ou sur lesquels la presse écrite passait rapidement parce que le lecteur pouvait entendre cette information par d'autres. Cette presse écrite s'est sentie obligée, a dû justement traiter cette information, la développer, ce qu'elle ne faisait peut-être pas toujours.
Alors Jean-Paul Wyss, on arrive à la fin de cet entretien. Alors on va parler pour terminer des projets de votre association, la Société des Amis de Pankook. Déjà un nouveau numéro de l'Abeille ?
Oui, bien sûr, le prochain numéro va paraître en décembre. Donc les articles m'arrivent actuellement. Pour être honnête, il ne me manque qu'un seul article pour le prochain numéro. Par contre, il me manque pas mal d'illustrations. Alors là, ce sera plutôt un numéro varia, hein, c'est-à-dire avec des thèmes tout à fait différent. Vous aurez la suite d'un article sur les Pankook, puisque le dernier numéro traitait d'André Pankook. Le prochain traitera donc du fils Charles Pankook. Vous aurez un article sur le fait divers dans la presse du Nord. Vous aurez un article sur un journal d'immigration qui s'appelle Les Amitiés franco-belges, qui était d'ailleurs édité ici à Arras. Et puis, bien sûr, on a toujours des projets pour les numéros suivants. Et le numéro d'avril, lui, reprendra les communications qui auront été faites à l'occasion d'une journée d'études, une demi-journée d'études qu'on va organiser aux archives départementales du Nord sur aspects de la presse du Nord-Pas-de-Calais. On a pris un titre pour ce première réunion qu'on voudrait ouverte au maximum de public. On a pris donc un thème très, très général. Cette demi-journée d'études va comprendre deux parties, trois communications historiques, l'une sur la presse sportive dans le Nord, l'autre sur la presse agricole et la troisième sur les journaux scolaires et une deuxième partie sur la presse du Nord et les nouvelles technologies et notamment sur Internet qui sera animée par un journaliste.
Toute personne intéressée peut participer à cette journée.
Bien sûr, cette journée aura lieu en janvier aux archives départementales du Nord, rue Saint-Bernard à Lille. Nous espérons que la presse, la grande presse l'annoncera. Nous, on l'annoncera dans notre revue. Et toute personne qui est intéressée par l'histoire à travers la presse ou par l'histoire de la presse peut rejoindre la société de Pankook. C'est pas réservé à quelques initiés, hein, cette société. D'ailleurs, elle va tenir, comme elle le fait régulièrement, tous les trois mois, une assemblée générale samedi prochain. Ça se déroule à la bibliothèque de Roubaix, puisque notre siège est à la bibliothèque de Roubaix. Et toute personne qui veut assister à cette réunion samedi à partir de 14h15 est invitée.
Alors, comment on vous contacte si on veut vous téléphoner, vous écrire, Internet, vous avez un blog ?
On peut nous écrire, on peut écrire directement, soit donc au président de l'association, et là on écrit 31 Avenue de la Gare, 59-118 Vambrechy. Sinon, l'association a un blog. Il suffit de taper www.pankook et vous allez arriver sur le blog de l'association. Elle a aussi une messagerie. Il s'agit de déposer. Vous pouvez déposer un message à l'adresse l'abeille en un seul mot, 5962@orange.fr.
Eh bien voilà, j'espère que les auditeurs, les auditrices de Radio PFM auront été intéressés par cet entretien qui me semble-t-il été passionnant et vous contacteront nombreux. En tout cas, Jean-Paul Wyss, merci beaucoup de votre venue.
C'est moi qui vous remercie.
Et à bientôt.
À bientôt.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Magazine Tumulte qui touche à sa fin. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h et sur le net radiopfm.com. Du tumulte à la semaine prochaine.